personnes qui arrivent petit à petit. C'est un véritable, un gigantesque embouteillage humain qu'il faut tenter de résorber dans l'est de la capitale.
Voilà, donc des gens qui sont loin de rentrer chez eux après avoir participé à cette manifestation. Nos invités, nous sommes avec Bertrand Badie. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Professeur à sciences politiques, directeur de recherche au Centre d'études et de recherche internationale. Christian Lequen est en ligne avec nous. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Vous êtes également professeur à Sciences Po, directeur de recherche au Centre d'études et de recherche internationale. Et puis Gilles Delannoy, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur au CEVIPOF et un spécialiste du nationalisme. À quand remonte la dernière fois que les Français ont été aussi solidaires, aussi nombreux dans la rue pour défendre une cause? Qui a ça en mémoire?
Bon, on peut évoquer effectivement la libération de Paris et la comparaison a été faite, bien sûr, bien sûr. Ceci dit, l'heure maintenant est à la compréhension de tout ce qui se passe, à l'analyse, à l'approfondissement. On a vécu des jours terribles, absolument terribles, et ce qui est essentiel maintenant, c'est de faire en sorte que cette violence montante, cette violence que nous découvrons et qui pourtant était latente dans le monde depuis déjà un bon moment, ne continue pas sa route macabre.
Ce qui s'est passé ces derniers jours, finalement, Gilles Delannoy, spécialiste du nationalisme, recimente la nation française. La France fait unité nationale, plus que jamais.
Ce qu'on peut dire en termes réalistes, c'est que la nation ne peut pas tout dans le monde contemporain, mais que l'absence totale de sentiment national n'est certainement pas mieux, ce serait pire. Donc faisons avec nos ressources propres, qui sont par ailleurs, on peut le dire aujourd'hui, reconnues internationalement. C'est-à-dire que les principes de la déclaration de 1789, qui devraient être notre bien le plus précieux, d'ailleurs la liberté d'opinion est le bien le plus précieux, dit l'article 11 de cette déclaration, ce n'est pas seulement un bien français, c'est un bien universel, enfin,
alors,
mondial.
Même si la marche a été organisée par les politiques, encadrée par les autorités, c'est bien à la base un mouvement de la base, un mouvement des citoyens. Le Premier ministre n'a pas dit autre chose tout à l'heure.
Nous avons toujours senti un moment inouï et extraordinaire, mais c'est au peuple aujourd'hui de s'exprimer. Il y a eu d'abord évidemment cette présence incroyable autour du président de la République, qui représente l'unité aujourd'hui de la nation, de tous ses chefs d'État et de gouvernement, du monde entier, de l'Union européenne, d'Afrique. Je pense à président malien, Ibrahim Boubacar Keïta, qui était aux côtés du président de la République avec la chancelière Merkel, le Mali, pays musulman et qui a été sauvé par la France, parce qu'il était victime d'une attaque terroriste terrible. Je pense aussi à la présence du président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, et du premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou. C'est des symboles forts, alors il faudra aller au-delà des symboles. Mais aujourd'hui, Paris est la capitale du monde, de la liberté, de la démocratie. Je pense qu'il y a un message, et ce message, nous devons l'entendre, qui est celui du rassemblement, de l'unité, de la tolérance.
Manuel Valls qui dit donc que Paris est la capitale du monde. Il faut dire qu'une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement étaient également dans la rue. Parmi eux, les premiers ministres israéliens, britanniques, le président palestinien, la chancelière allemande Angela Merkel, 6 chefs d'État africains, et puis Matteo Renzi, le premier ministre italien.
Je pense que lorsqu'il y a un attentat contre Paris, c'est pas un attentat seulement contre Paris, c'est un attentat contre la liberté, contre l'idée d'Europe, et donc contre tous les peuples qui aujourd'hui va donner le message qui connecte tous Français aujourd'hui. Je pense aussi que nous devons donner un message d'amitié, de solidarité, mais aussi d'espoir pour le futur. Je pense que l'Europe, c'est plus fort de la peur, c'est plus fort de l'horreur, c'est plus fort du terrorisme, et nous sommes ici tout ensemble pour donner le message que l'Europe va gagner le défi contre le terrorisme.
Voilà donc pour Matteo Renzi, le Premier ministre italien. Christian Lequen, vous êtes un spécialiste de l'Union européenne. Si tous les dirigeants, quasiment tous les dirigeants européens sont aujourd'hui à Paris, c'est par solidarité bien évidemment. Est-ce que ce n'est pas aussi pour conjurer le mauvais sort, se disant que peut-être leur tour viendra, le tour de leur pays viendra d'être la cible des djihadistes?
Je crois
crois d'abord qu'effectivement c'était une nécessité symbolique que l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne et au-delà du monde soient aujourd'hui à Paris, et on a vu que ce symbole a été exprimé de façon très forte. Vous rappeliez tout à l'heure la proximité de Mahmoud Abbas et de Netanyahou, mais il ne faut pas oublier que ce phénomène du terrorisme frappe aujourd'hui la France, mais a frappé d'autres pays européens avant nous, Madrid 2004, Londres 2005, et nous savons tous que ce problème peut demain toucher un autre pays de l'Union européenne, voire un pays du monde que le nôtre. Donc il me semble qu'il était très important aussi que l'on marque par cette dimension européenne le fait que nous sommes bien conscients que ce problème du terrorisme est un problème qu'il faut affronter au niveau de l'Europe, voire mondialement.
Bertrand Badi du Centre d'études et de recherche internationale, votre commentaire sur cette union sacrée vue aujourd'hui à Paris ?
Oui, justement, le grand problème, il est là, c'est-à-dire à partir du moment où on découvre ces formes nouvelles de violence, où on découvre en grande partie notre impuissance également, comment doit-on réagir et à quel niveau ? Il faut comprendre une chose, c'est que les événements que nous vivons ou qui ont été vécus à Londres ou à Madrid, c'est l'expression d'abord de la mondialisation de la violence. Il n'y a plus de sanctuaire dans notre monde, c'est-à-dire il n'y a plus d'espace protégé. On a cru qu'on pouvait regarder les guerres du Moyen-Orient et d'Afrique comme dans notre fauteuil devant notre télévision. Ce n'est plus possible, on est impliqué et on s'est impliqué. On est impliqué parce qu'on est dans un monde de communication, tout le monde voit tout, et on s'est impliqué parce qu'on s'est lancé dans une politique d'intervention sans peut-être prendre la mesure de tout ce que ça impliquait pour nous. Donc maintenant, il faut apprendre à jouer dans la mondialisation. Le drame que nous vivons aujourd'hui, c'est peut-être parce que nous parlons beaucoup de mondialisation, nous savons pas nous placer dans celle-ci. Le monde est terriblement violent, et ce que nous avons vécu en France, c'est une petite goutte de sang par rapport à tout ce qui se passe au Moyen-Orient, 200 000 morts, plus de 200 000 morts en Syrie, au Sahel, 2 800 morts toutes les 3 heures pour la faim dans le monde, 25 000 morts de faim dans le monde. Eh bien, tous ces gens, toutes ces victimes, c'est pas des chefs d'État dont il est question, hein. Ce sont des hommes, des êtres humains qui nous regardent, qui voient les différences, qui voient les décalages, qui voient les abandons dont ils sont victimes, et nous avons à nous exprimer en leur direction. Nous avons à les intégrer. Vous savez, cette violence, elle ressemble un peu à ces anarchistes à l'intérieur de nos nations à la fin du 19e siècle, c'est-à-dire devant ce sentiment de non-intégration, une violence aveugle, terrible, barbare. Bon, il faut commencer le grand travail d'intégration, et je ne suis pas sûr que le défilé d'aujourd'hui réponde exactement à ce besoin urgentissime. Monsieur Netanyahou, c'est quand même le monsieur qui a lancé ces bombes sur Gaza en juillet dernier, et qui est l'une des allumettes de cette violence que nous constatons au Moyen-Orient. Quel spectacle donnons-nous à ceux qui souffrent dans le monde que de le voir dans le cortège ? Il y a là quand même un vrai problème. Il est temps de regarder en face cette réalité-là.
J'ajoute qu'à l'instant même, François Hollande ainsi que le Premier ministre Manuel Valls sont à la synagogue de Paris pour rendre donc hommage aux 4 victimes juives de la porte de Vincennes. Une question à Alain Corpet, chef du service international de RFI.
On l'a vu, la réponse toute répressive après le 11 septembre n'a pas donné les résultats escomptés. La guerre en Afghanistan se solde par un échec. Est-ce que finalement, c'est pas ce que voulait dire les gens réunis dans la rue en France aujourd'hui, nous sommes prêts au dialogue, nous voulons ce dialogue plutôt que le tout répressif ?
Voilà, c'est exactement là que se situe le nœud du problème. Nos armées européennes, nos États européens, nos alliances occidentales ne sont pas la bonne réponse à ce type tout à fait nouveau et inédit de violence. Et lorsque, à l'intérieur de nos nations, ces violences se retrouvaient, nous y avons répondu en inventant des politiques sociales nationales. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une politique sociale internationale mondiale qui fait que Chaque individu se sent reconnu dans le monde. Ce défaut de reconnaissance, à mon avis, ne sera pas conjuré par cette cristallisation dans les alliances occidentales et dans le bloc européen. Il faut parler monde, il faut être mondial, il faut s'adresser à ces populations qui se considèrent comme des laissés pour compte. Et vous savez, à partir du moment où on a un laissé pour compte, chacun réagit à sa façon. Il y en a qui réagissent de manière complètement folle, complètement barbare, c'est ce à quoi nous avons été exposés. Eh bien, il faut diminuer ce niveau de tension.
Vos commentaires, Christian Lequel, Gilles Delannoy, sur cette question?
Dans l'ensemble, je suis d'accord avec ce que Bertrand vient de dire, sauf que, à mon avis, c'est un peu plus compliqué, parce que si effectivement, dans le cas de la France, nous avons vu que les jeunes gens qui ont été les auteurs d'attentats terroristes étaient plutôt justement des jeunes gens faisant partie, disons, des milieux sociaux défavorisés, etc. Ça n'a pas toujours été le cas avec les terroristes. Je rappelle qu'en 2005, par exemple, les jeunes qui ont posé des bombes dans le métro à Londres avaient fait de très bonnes études, étaient tout à fait intégrés a priori dans la société britannique, et ça ne les avait pas empêchés d'adhérer, disons, aux idéaux barbares qui les ont amenés à commettre ces actes. La violence, Bertrand a raison, bien sûr qu'il y a de la violence dans le monde, ce n'est pas une chose, hélas, ce n'est pas une chose nouvelle, et il se trouve que nous devons, quand on est ici en Europe, quand même, et essayer de trouver les bonnes politiques publiques pour résoudre le problème. Moi, je me mets à la place aujourd'hui des responsables gouvernementaux, quel qu'il soit, et nous savons très bien que sur ces questions de terrorisme, eh bien, ça passe par la coopération, notamment la coopération dans le domaine du renseignement, la coopération dans les échanges d'informations, et ces choses-là, elles sont essentielles.
On y reviendra tout à l'heure, si vous le permettez. Je voudrais qu'on reste un instant sur le fait qu'une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement étaient aujourd'hui dans les rues de Paris. Pierre Firsion, vous étiez proche de ces responsables politiques. On n'a jamais vu autant de chefs d'État. C'était carrément un G50, Boulevard Voltaire.
Alors oui, Philippe, cette photo de tous ces chefs d'État et de gouvernement, ils étaient, hein, vous le disiez, une cinquantaine à participer à cette marche. Cette photo-là, sans doute, fera date. C'est un moment historique, hein, que l'on a vécu aujourd'hui. François Hollande, entouré de la chancelière allemande Angela Merkel et du président malien Ibrahim Boubacar Keïta, deux ans, hein, jour pour jour, après le début de l'intervention de Serval au Mali. Ces trois dirigeants avec à leur côté le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le palestinien Mahmoud Abbas, sans oublier les chefs de gouvernement italien et espagnol Matteo Renzi et Mariano Rajoy. C'est tout simplement du jamais vu, même au lendemain des attentats du 11 septembre. À 15h26, le cortège s'est donc élancé, ouvert par les familles des victimes des attentats. Les chefs d'État et de gouvernement suivaient juste derrière. Ils ont parcouru environ 400 mètres pour une marche qui aura donc duré quelques minutes. Des dirigeants qui ont défilé la mine sombre, hein, le visage grave. Aucun d'entre eux n'a pris la parole à ce moment-là. C'était un moment, ça se voulait, un moment de recueillement, de témoignage à l'égard des victimes. François Hollande, on peut dire, sera donc parvenu à faire venir tous ces dirigeants internationaux pour ce moment historique. C'est là, sans nul doute, un beau succès pour lui.
Pierre Firsion, donc l'un des envoyés spéciaux de RFI sur place à cette manifestation des chefs d'État, donc qui manifestaient pour la démocratie et la liberté d'expression, alors que certains d'entre eux sont loin d'être des modèles dans leur pays. Écoutez à ce sujet Christophe Deloire, le président de Reporters sans frontières.
Malheureusement, se sont greffés sur cette manifestation des chefs d'État, de gouvernement, des ministres, de pays prédateurs de la liberté de la presse. Il y a là une récupération indigne, malheureusement, de la part de dirigeants, de ministres, de pays comme l'Égypte, la Russie, la Turquie, qui chaque jour briment la liberté de la presse dans leur pays, qui chaque jour portent atteinte à la liberté des Charlie Hebdo de leur pays et qui viennent là manifester. Reporters sans frontières dénonce cette récupération et appelle à la solidarité avec tous les Charlie du monde. Il y a là quelque chose qui relève du crachat sur les tombes de Charlie Hebdo.
Bertrand Badi du Centre d'études et de recherche internationale.
Oui, vous avez raison de parler de G50, c'est une image.
Comme un G8 ou un G20, voilà. Sauf que là...
Voilà, sauf que c'est pas le sujet. Sauf que c'est pas le sujet. C'est-à-dire que cette violence-là, elle n'est plus produite par des États. Cette violence-là ne met pas face à face des États. Et les chefs d'État qui défilaient ont tous des problèmes, des différends avec leur société et avec la violence qui s'y produit et sont souvent impuissants. Là où je pense que tout se joue, c'est de savoir changer de diplomatie. C'est-à-dire que ce n'est plus dans des sommets que l'on réglera ces problèmes, ce ne sont plus dans des dialogues d'État à État ou d'armée à armée qu'on réglera le problème, c'est une autre diplomatie qu'il faut inventer. Ces gens-là étaient 50 chefs d'État, syndicats de la même sensibilité, c'est-à-dire effectivement se protéger contre une violence qu'ils ne maîtrisent plus, qu'ils ne contrôlent plus. Cette violence, elle frappe la Chine, elle frappe la Russie, elle frappe les États-Unis, elle frappe la Grande-Bretagne, elle frappe la France, elle frappe l'Inde, elle frappe le Pakistan. Faut quand même pas oublier que aujourd'hui les relations internationales, ce ne sont plus des États entre eux, mais c'est des États impuissants face à des sociétés que l'on ne sait pas regarder.
Vous écoutez Radio France Internationale, édition spéciale à propos de cette marche historique aujourd'hui qui a réuni près de 3,5 millions de Français aujourd'hui dans les rues de Paris et de la province.
Édition spéciale, Philippe Le Catelin.
La manifestation est donc en train de se disperser à Paris, mais il faudra encore de nombreuses dizaines de minutes avant que toutes les avenues encombrées par des millions de personnes donc aujourd'hui redeviennent libres et rendues à la circulation. Ça prend beaucoup de temps, bien évidemment. Édition spéciale pour comprendre la portée de tout cela, pour essayer de voir ce qui se passera demain. Ce sera, ça nous ramènera à la politique en France. Mais nous allons maintenant parler de l'Afrique. L'Afrique était à Paris, il y avait un certain nombre de chefs d'État qui étaient tout à l'heure Boulevard Voltaire aux côtés de François Hollande, plusieurs responsables africains, parmi lesquels le président togolais Faure Gnassingbé.
Il est évident que tout le monde est touché, ressent la douleur du peuple français. Et pour moi qui ai vécu dans ce pays pendant plus de 10 ans, j'ai compris que la France était touchée là, qu'il y avait une douleur, qu'il y avait un désir de rester debout face à l'événement. Eh bien, dans ces cas-là, la France est un pays ami. Quand on est un ami, dans des moments douloureux comme ça, il faut être à côté. La seconde raison, c'est que c'est un acte terroriste, qu'on le veuille ou pas. Et nous sommes dans une région où le terrorisme sévit. Pas de la même manière, certes. Nous regrettons parfois que les réactions ne soient pas les mêmes quand ces événements se produisent dans nos pays, au Nigeria, au Kenya ou au Mali. Mais je me dis justement, aujourd'hui, c'est l'occasion d'être là pour que nos amis occidentaux comprennent aussi que c'est l'affaire de tous quand il s'agit de terrorisme. Si nous reprochons aux Occidentaux de n'être pas à nos côtés quand il y a des attentats, c'est justement l'occasion de venir à leur côté pour qu'ils comprennent que c'est le même mal, même s'il prend des visages différents, même s'il prend des formes différentes, que ce soit en Afrique, au Moyen-Orient ou en Europe. C'est le même mal et c'est toute la communauté internationale. Ce sont tous les États qui doivent se mobiliser pour combattre le terrorisme.
Le président togolais avec Christophe Boisbouvier. Laurent Corot, ses chefs d'État à Paris tout à l'heure. Ils étaient 6 au total.
Voilà, 6 chefs d'État. Outre Faure Gnassingbé qu'on vient d'entendre, il y avait également le Malien Ibrahim Boubacar Keïta, placé directement à droite de François Hollande dans le cortège, sans doute pour marquer l'importance que la France accorde au Mali dans la lutte contre le djihadisme. Il y avait également le Nigérien Mahamadou Issoufou, le Sénégalais Macky Sall, le Béninois Thomas Boniyali et le président gabonais Ali Bongo. Mobilisation exceptionnelle de l'Afrique. Donc l'Afrique qui a voulu marquer sa compassion avec les Français, sa solidarité, mais qui tient manifestement aussi à souligner la dimension globale de la lutte contre le djihadisme, car l'Ouest et le centre du continent voient eux aussi avec inquiétude la progression de l'extrémisme religieux.
Donc des présidents africains et musulmans, hein, pour certains d'entre eux. D'autres pays étaient représentés, non pas avec un chef d'État, mais d'une autre manière.
Voilà, le premier ministre tunisien en exercice Mehdi Joma était présent aujourd'hui à Paris, de même que le ministre des Affaires étrangères égyptien Sameh Choukri. Et puis deux partenaires de Paris dans la lutte contre le djihadisme ont également envoyé des délégations. Le Tchad, tout d'abord représenté par son premier ministre Kalzebe Paimi Debe, le Tchad qui accueille actuellement l'opération Barkhane de lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Et puis l'Algérie, autre partenaire de la France dont la lutte contre le terrorisme a été représentée par son ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra.
Et puis je vous propose d'écouter ces propos du ministre algérien des Affaires étrangères sur tout ce dont on parle depuis maintenant plusieurs jours. Écoutez-le.
Ils ne se sont jamais préoccupés d'avoir des documents algériens, même si leur père, lui, en a eu à un certain moment.
Leur maître à penser, Jamel Begal, est un Français d'origine algérienne. Manuel Valls...
Des faits que nous considérons comme un affront fait à l'humanité tout entière. Dans cette logique, les États-Unis proposent d'accueillir un sommet international le 18 février à Washington, à la Maison-Blanche. Nous y discuterons avec nos alliés de la manière dont nous pouvons contrer cet extrémisme violent que nous voyons à travers le monde. C'est seulement en travaillant ensemble, en partageant nos informations, que nous pourrons vaincre ceux qui nous combattent et s'opposent à nos valeurs fondamentales. Aujourd'hui, nous sommes tous des citoyens français. Je suis un citoyen français et nous sommes aux côtés du peuple français.
Et il y aura donc ce sommet international le 18 février à Washington, consacré donc à cette guerre contre le terrorisme. Un rapide commentaire, Bertrand Badi, là-dessus. Vous disiez tout à l'heure, c'est pas au niveau des États, forcément, mais enfin, il faut bien ce genre de réunion pour que les choses avancent, quand même.
Oui, il faut surtout distinguer les niveaux de réaction. C'est-à-dire que ce qu'on attend d'un gouvernement, c'est qu'il protège ses citoyens. C'est évident. Et là, nous nous retrouvons tout à fait dans la ligne qui a été décrite il y a un instant. L'erreur, c'est de penser que l'on puisse s'en tenir là, et l'erreur est aussi de penser qu'une stratégie répressive, je dirais à l'ancienne, pourra régler ces problèmes. Envoyer un corps expéditionnaire, envoyer l'OTAN, envoyer des drones, ce n'est pas comme ça que l'on affronte des pathologies sociales graves, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit, de pathologies sociales graves. Il faut avoir le courage, et ça sera le vrai courage de nos sociétés, de regarder nos responsabilités. L'immigration a été pendant des décennies un laboratoire d'intégration qui a échoué, qui a abouti à des résultats catastrophiques. Pensez que la classe politique presque tout entière se saisit des questions de l'immigration pour gagner des voix, alors que le vrai problème est de réussir cette intégration. Mais maintenant, les choses vont très vite. La véritable intégration, elle va se jouer au niveau mondial, c'est-à-dire quelle image l'Europe et l'Occident donnent-ils d'eux-mêmes dans le monde ? Est-ce qu'ils prétendent toujours au leadership ou est-ce qu'ils vont faire l'effort de partager ce leadership avec les puissances émergentes, avec ces fragments de société qui arrivent dans l'arène internationale et que nous n'accueillons que par la moquerie. Enfin, quand même, que les deux succès de librairie portent entièrement sur la stigmatisation et la tentative de ridiculiser une religion, voilà qui va tout à fait à contre-courant de ce qu'est la mondialisation aujourd'hui.
L'intégration, dites-vous. L'intégration, vous savez bien de quoi il s'agit, Cécile Kyenge. Bonsoir à vous.
Bonsoir à tous.
Vous êtes ancienne ministre italienne de l'intégration, justement, députée européenne socialiste aujourd'hui. Votre commentaire sur ce que vient de dire Bertrand Badi. Aujourd'hui, le djihadisme, si je fais court, c'est la rançon du manque d'intégration de nos sociétés.
Moi, je dirais que c'est une des causes. J'ai bien suivi son discours et je trouve qu'il a parfaitement raison, puisqu'il a repris beaucoup de thèmes que j'ai toujours cités durant mon mandat au gouvernement italien, le fait que pour essayer de protéger les citoyens, il faut aussi faire des politiques de prévention. Il faut faire une forte politique d'intégration et c'est par là qu'on doit normalement partir pour essayer aussi de répondre aux causes qui sont à la base de tout ce que nous sommes en train de voir. Mais effectivement, il n'y a pas seulement ça comme cause, puisque on peut dire que à côté de ça, je crois que il y a aussi la difficulté difficulté au niveau de nos sociétés de pouvoir de connaître de quoi il s'agit, de connaître les cultures qui arrivent dans nos pays. Et donc, vous voyez, pour aller vers une bonne intégration, il ne s'agit pas seulement d'avoir des bonnes politiques, mais il s'agit aussi de donner des instruments à la population, de façon que la population ne puisse pas avoir peur des gens qui arrivent sur le territoire, puisque autrement on aboutit au populisme, à la xénophobie, à la peur, et tout ça, ça augmente un peu la tension dans la population, et on arrive justement à pouvoir assister à tout ça.
Vous souhaitez réagir, Bertrand Badi, je reviens vers vous juste après, madame.
Oui, d'abord, je voudrais dire mon admiration pour Madame Kenge, qui a fait un travail absolument formidable lorsqu'elle était ministre du gouvernement italien. Et je m'incline devant ce qu'elle dit et ce qu'elle a été. Et ce qu'elle vient de nous dire est quelque chose d'extrêmement important. C'est-à-dire que le malheur de notre histoire européenne et occidentale, c'est que nous avons toujours cru que nous étions tout seuls. Et regardez comment a fonctionné la vie internationale jusqu'à la chute du mur. C'était européen face à européen, ou nord-américain et européen face à européen. Et intégrer la culture de l'autre, c'est-à-dire la vraie diplomatie aujourd'hui, c'est celle qui sait construire l'altérité. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot à avancer que celui-là, c'est-à-dire construire l'altérité. Je ne suis pas sûr que la manière dont nous menons nos diplomaties à coup d'OTAN, à coup d'armée, à coup d'intervention, à coup de drone, à coup aussi quand même d'un satisfécite que l'Occident s'offre à lui-même tout le temps, soit la bonne méthode.
Vous souhaitez intervenir, Gilles Delannoy. Je rappelle que vous êtes professeur à Sciences Po et chercheur au CEVIPOF.
Oui, je voulais dire dans la suite de ce que disait Bertrand Badie à l'instant que j'adhère à la première partie, mais pas à la seconde. C'est-à-dire que, bien sûr, notre narcissisme, qu'il soit d'ailleurs fait sous forme arrogante ou sous forme modeste, est un grand handicap pour nous et pour le monde entier. Mais parler de l'autre avec un grand A, ou de l'immigration avec un grand I, c'est encore une abstraction occidentale et c'est encore du narcissisme. Il y a des autres. Les relations ne sont pas face à face, y compris entre l'Occident et le reste du monde. Il y a des autres, il y a des immigrés, il y a des cultures. C'est ça le sens de la diversité que nous devons développer aujourd'hui.
Votre analyse, Christian Lequen, du Centre d'études et de recherche internationale.
Oui, je pense qu'il faut qu'on fasse attention quand on opère un lien entre ces phénomènes de radicalisation et l'immigration, dans la mesure où nous voyons que 20% environ des 1200 jeunes Français que l'on considère comme ayant fait le voyage sont des convertis. Hein, ce ne sont pas des jeunes gens issus de l'immigration. Donc nous sommes face à des formes de violence radicale qui ne renvoient pas forcément uniquement au problème de l'Occident qui intégrerait mal le non-Occident. Je pense que on est face à des jeunes gens. Il y a eu un très bon papier d'Olivier Roy dans Le Monde il y a deux jours, qui sont à la recherche d'une violence radicale pour exister. Olivier Roy disait il y a 50 ans on était gauchiste, et bien aujourd'hui on est islamiste radical. Et alors les moyens de communication ont fait que évidemment tout ça peut se diffuser via Internet. Je crois qu'une des erreurs que l'on commet très souvent, c'est d'essayer de voir derrière tout ça des grandes pyramides formidablement organisées avec des donneurs d'ordre. Non, enfin l'enquête le montrera, mais je crois qu'une des caractéristiques justement de notre moment où la communication se fait par Internet, c'est que nous allons avoir des formes de violence radicale qui vont s'auto-organiser autant d'endroits différents, et c'est précisément ça qu'il faut essayer aussi de comprendre. Mais moi, je ne voudrais pas faire porter trop le lien sur disons radicalisation et immigration. Je trouve que c'est quelque chose qui mérite d'être sérieusement relativisé.
Est-ce que vous pensez la même chose, Cécile Kyenge, ancienne ministre italienne de l'intégration?
Ben moi, ce que je crois est que aujourd'hui, on n'a pas le courage de dire que ce dont nous sommes en train d'assister n'est pas seulement un phénomène d'extrémisme et que la guerre a changé de son vrai visage et qu'aujourd'hui on n'a pas le vrai modèle, disons on n'a pas le modèle ancien dont on parlait sur la guerre entre un pays et un autre et que la plupart des gens ne se reconnaissent pas dans des pays. Alors ils forment des communautés là où il y a des fanatismes, là où il y a de radicalisation, et c'est un nouveau visage en quelque sorte de ce qu'on peut appeler la guerre entre guillemets, puisque on trouve ça au Pakistan, on trouve ça au Nigeria avec Boko Haram, on trouve ça en France, puisque c'est pas nécessairement un problème qui regarde la France, qui regarde l'Occident, mais c'est un problème qui regarde la haine et la violence. Si on ne trouve pas de solution à ceux qui sont les causes de toute cette violence, de toute cette haine. Ça sera difficile qu'on puisse assister et donner des réponses à tout ce que nous sommes en train de voir. Donc, les enfants qui ont été tués au Pakistan, c'était des musulmans, c'était dans un pays là où est bien radicalisé aussi ce phénomène. Et Boko Haram au Nigeria, c'est la même chose. Je crois que ce qu'on doit faire, c'est de pouvoir analyser ce qui arrivait en France dans un contexte un peu plus international. Alors là, on pourrait donner une réponse et du point de vue de l'immigration, et pas seulement ça, et du point de vue des causes qui sont à la base de la haine et de la violence. Donc moi, je crois qu'il faudrait qu'on essaye un peu d'élargir notre réflexion pour donner une réponse concrète à tout ce que...
C'est peut-être la raison pour laquelle de nombreux pays dans le monde se sentent concernés et ont manifesté aujourd'hui. On le disait tout à l'heure, plusieurs pays africains, vous me permettrez de dire que Cécile Kiengé, vous êtes originaire de RDC. Comment est-ce que vous analysez ce qui s'est passé aujourd'hui sur le continent avec des manifestations dans plusieurs pays ?
Justement, je voulais reprendre ce point-là, puisque à partir de la manifestation d'aujourd'hui, je crois que l'Europe doit bien réfléchir et reprendre un peu son rôle au niveau international. C'est celui aussi de renforcer ses rapports avec les autres pays, c'est-à-dire à travers une forte coopération internationale, une forte politique étrangère pour accompagner beaucoup de pays dans la RDC et bien d'autres pays dans un processus qu'on peut dire post-conflit. Et il y a beaucoup de pays qui doivent encore renforcer leur démocratie. Il y a beaucoup de pays qui doivent essayer d'avoir ces valeurs de dialogue, de démocratie. Et je crois que l'Europe, en ce moment, peut reprendre son rôle, essayer d'accompagner tous ces pays qui, d'ici 2-3 ans, iront aux élections. Donc, si on ne commence pas maintenant, je crois que ça peut être tard, au moment où il y aura les élections ou après les élections, qu'on assiste à d'autres conflits, tandis qu'aujourd'hui, on peut très bien prévoir tout ça. Et à partir de la prise de conscience qu'on a assisté aujourd'hui avec tous les représentants des États membres.
Une dernière question de Laurent Corot.
Alors non, c'était peut-être pour vous parler des rassemblements qui ont lieu en Afrique, des rassemblements qui ont été plus symboliques que ceux auxquels on a pu assister en France. Par exemple, à Bujumbura, au Burundi, on a eu 300 personnes environ qui s'étaient rassemblées devant l'ambassade de France à l'initiative des professionnels des médias. On s'est rassemblés également à Abidjan, mais là aussi c'était très symbolique, 500 personnes environ, avec des représentants du pouvoir de l'opposition. Des rassemblements aussi au Bénin, au Sénégal ou encore en Guinée, où là en Guinée on a eu une centaine de personnes à Conakry. Le président Alpha Condé était présent.
Vous écoutez Radio France Internationale, il est 19h52 ici en France.
Édition spéciale, Philippe Le Caplain.
Venons-en aux conséquences qu'aura inévitablement ce qui s'est passé aujourd'hui, une journée particulière, une journée qui restera dans l'histoire. Près de 3,5 millions de Français réunis dans la rue. Parmi eux, Bertrand Delanoë, l'ancien maire de Paris.
C'est un moment fort, en même temps, il faut rester lucide et savoir qu'il y aura besoin de cette force dans les mois, les années qui viennent. Il y a besoin d'esprit de responsabilité, de lucidité et en même temps de ce qui fait vivre au quotidien ces valeurs essentielles. Mais je pense qu'une des mobilisations énormes qu'il y a eu, c'est le 1er mai 2002. Lorsque, au-delà des différences droite-gauche, tout le monde se rassemblait contre l'idée de l'extrémisme. Et là, je crois que c'est encore plus puissant. Et je crois que c'est très bien parce qu'il y a une égale solidarité vis-à-vis de ces dessinateurs géniaux qui défendaient la liberté, mais de policiers, des juifs qui ont été assassinés parce que juifs. Et donc, finalement, tous les êtres humains qui sont attaqués pour ce qu'ils sont soude la société dans toutes ses différences pour quelque chose de très beau qui est la dignité de l'être humain et donc son droit à vivre libre.
Voilà donc Bertrand Delanoë, socialiste et ancien maire de Paris. L'unité nationale depuis mercredi, l'unité nationale éclatante aujourd'hui, mais demain, vous n'êtes pas devin Bertrand Badi, mais comment vous voyez les choses ?
Bah, vous savez, moi dans mes 40 ans de métier de professeur de sciences politiques, le mot unité nationale, j'ai jamais pu véritablement en voir la réelle concrétisation. Une société, surtout nos sociétés modernes, elles sont divisées, elles sont clivées. Toute la population française ne voit pas ces questions de la même façon. Faut pas se faire d'illusions. Pas la réflexion sur l'intégration, la réflexion sur l'immigration, la réflexion sur l'autre, elle est extrêmement différente d'une catégorie sociale à l'autre.
il peut y avoir des moments d'émotion collective, mais entre le terme d'émotion collective et celui d'unité nationale, je crois qu'il y a une marge importante. Nous sommes dans l'émotion collective, parce que qui pourrait réagir autrement que par une émotion très forte et par un dégoût profond face à ce qui s'est passé? Ça, c'est le collectif. Là, effectivement, il y a unanimité. Mais à travers déjà les ambiguïtés du cortège d'aujourd'hui et à travers les politiques publiques qu'il va falloir aujourd'hui penser, je crois que nous sommes encore loin de l'unité nationale. Il ne faut pas en avoir peur. Nos démocraties sont là pour valider le fait que tout le monde n'est pas aligné, que tout le monde n'est pas forcément d'accord. Mais l'important, c'est pas l'unité nationale. L'important, c'est de savoir inventer ces politiques publiques qui permettront d'aller un peu à la rencontre de tous ces égarés, de tous ces pathologies sociales, ces délabrements, ces défauts d'intégration. Et Christian Lequen a raison, défaut d'intégration, c'est pas seulement problème de l'immigration. Faut voir aussi ce qu'est le défaut d'intégration des populations sans emploi, des populations laissées pour compte. Et c'est ça le vrai problème. Par quelle politique publique répondre? Je ne suis pas sûr qu'il y ait unité nationale sur ce cas.
Merci pour cet éclairage, Bertrand Badi, du Centre d'études et de recherche internationale, le CERI. Florent Guignard, chef du service politique de RFI. Union sacrée depuis 3-4 jours. Est-ce que dès demain matin, la politique politicienne reprendra ses droits?
Je crois qu'elle a déjà repris ses droits, puisqu'on est en démocratie, hein, comme vous venez de le dire. Alors c'est vrai qu'on a eu tout au long de ces quelques jours de drames et d'émotions, on va dire pas une unité nationale sur le plan politique, mais la vie politique a été presque complètement entre parenthèses, et on l'a vu avec quelques gestes symboliques, par exemple Nicolas Sarkozy sur Twitter qui retweet un message du gouvernement qui appelle à la manifestation, au rassemblement. On a vu tous ces anciens premiers ministres de droite, de gauche défiler ensemble, les chefs de parti aussi de droite et de gauche côte à côte, Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du Parti Socialiste, aux côtés de Jean-Christophe Lagarde, le nouveau président de l'UDI. Voilà, il y a eu comme ça, des images, des moments, et en même temps, dès ce soir, on commence à poser des questions. Alors, des questions posées par exemple par Christian Estrosi, que Pierre Firsion du service politique a croisé cet après-midi, place de la République, il l'a dit. Il va falloir poser les questions de la gestion de la crise. Rachida Dati, tout à l'heure sur France 2, qui évoquait déjà l'échec de l'intégration. Laurent Wauquiez, qui a pointé le péril islamiste dans les colonnes du journal du dimanche ce matin. Et il l'a d'ailleurs précisé au JDD, hein, je parle à la demande de Nicolas Sarkozy. Il pose déjà des jalons pour l'ancien président de la République. Il sera demain dans une matinale sur RTL pour répondre à des questions très politiques. L'unité nationale s'est terminée ce soir. La politique reprend ses droits très vite.
Le numéro 3 de l'UMP, Laurent Wauquiez.
Je viens d'en parler, effectivement.
A parlé de péril islamiste. Donc, ce sont des propos très, très forts. Le FN a défilé en province, mais pas à Paris, s'estimant exclu. Marine Le Pen était à Beaucaire, dans le Gard, où le vote FN est important. Il y avait une polémique. Elle a été un petit peu tuée dans l'œuf avec la venue de 50 chefs d'État. Est-ce que dès demain matin, ça va reprendre
de ce côté-là? Du côté du Front National, la polémique, il faut le dire, n'a jamais cessé. C'est-à-dire que Marine Le Pen, alors que François Hollande lui a garanti sa sécurité, si elle se rendait au rassemblement Place de la République, Marine Le Pen a refusé de venir à Paris. Elle a préféré effectivement aller défiler à Beaucaire, cette municipalité conquise par le Front National en mars dernier. Alors on a vu des images, hein, un millier de personnes. Marine Le Pen entonnant la Marseillaise, entourée par trois policiers municipaux. Je ne suis pas sûr qu'au niveau politique, le gain pour le Front National, comme ça de se retrouver isolé, soit assuré. On le verra. Et puis, il y a quand même une provocation de Jean-Marie Le Pen, le père de Marine Le Pen, qui a profité de cet après-midi d'émotion pour annoncer sa candidature au régional.
Merci Florent Guignard. Je vous propose de retourner une fois encore à la place de la Nation, qui est la destination finale de cette marche républicaine. Stéphane Lagarde, vous êtes sur place.
Oui, nettement moins de monde, hein, Philippe, maintenant que tout à l'heure, mais certains n'ont pas envie de la quitter, cette place de la Nation. Il s'est passé quelque chose aujourd'hui, je n'ai pas l'habitude de manifester, me confier un marcheur, c'est un jour qui va compter pour l'histoire de France. Et devant les projecteurs des télévisions, il y a encore des groupes qui chantent, on est tous Charlie, il y a la Marseillaise avec des you-you, un couple d'amis est venu même avec deux pancartes, je suis juif et j'aime les musulmans, je suis musulman et j'aime les juifs. Nous témoignons ici pour les 17 victimes, nous sommes aux côtés de ces victimes. Plus d'un million et demi de personnes sont passées sur cette place et pour l'instant, il n'y a pas eu d'incident. Le métro de la Nation maintenant est réouvert.
Voilà pour cette édition spéciale à propos de cette journée historique vécue à Paris et partout en région. 3 millions et demi de Français environ qui ont manifesté avec bien évidemment des slogans comme celui-ci: « Je suis Charlie, juif, policier ».